Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polotec
et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Bertil Scali pour le film « Hitler, mon voisin » qu'il a écrit et réalisé avec François Borde, un film qui sera diffusé le 24 janvier prochain à 20h45 sur Planète Plus. Il est également présent pour le livre du même titre aux éditions Michel Lafon. « Hitler, mon voisin », c'est l'histoire d'Edgar Feuchtwanger, un juif allemand qui avait 5 ans en 1929, au moment où Hitler emménage dans l'immeuble situé juste en face de chez lui, Prinzregentenplatz, à Munich. Comme il le dit lui-même dans ce documentaire, il se trouve alors dans l'œil du cyclone qui va déferler quelques années plus tard sur l'Europe. Votre documentaire, Bertil Scali, suit Edgar Feuchtwanger depuis la Grande-Bretagne, où il vit depuis 1939, jusqu'à Munich, sa ville natale, où il revient pour la première fois depuis 73 ans, depuis qu'il a fui l'Allemagne nazie. Ce retour en Allemagne est bien évidemment l'occasion d'un retour sur un passé douloureux pour Edgar Feuchtwanger. Tout d'abord, Bertil Scali, comment avez-vous fait pour le convaincre de ce projet ?
Bonjour. Juste une petite précision, ça n'était pas la première fois qu'il revenait en Allemagne. Il était déjà revenu...
Munich ?
Oui, même à Munich, oui. À de nombreuses reprises, mais... néanmoins, ça a été très émouvant pour lui, puisque nous sommes retournés, surtout ça pour le coup, je crois que c'était la première fois dans l'appartement familial et également dans son école. L'histoire de ce documentaire, en fait, fait suite à l'histoire d'un livre que je lui ai demandé d'écrire à peu près chaque année, je crois, depuis 17 ans. C'était en 95, date à laquelle je l'avais rencontré pour un reportage. Demande à laquelle il ne répondait pas. Il avait toujours mieux à faire. Je crois que ce n'était pas le bon moment pour lui. Cette année, enfin l'année dernière, il a accepté de raconter son enfance.
Avant de s'intéresser au film proprement dit, j'aimerais qu'on revienne un peu sur la famille Feuchtwanger, qui était une famille très connue en Allemagne. Le père d'Edgar était éditeur, mais c'est surtout son oncle, Lion Feuchtwanger, qui était un écrivain connu, l'auteur du Juif Sus, qui au départ était une dénonciation de l'antisémitisme, qui a été d'ailleurs un best-seller à l'époque, avant que les nazis ne réutilisent ce thème pour en faire l'un des films antisémites les plus terribles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le parcours de cet homme, Leon Feuchtwanger, et puis son engagement face à Hitler?
Leon Feuchtwanger était le frère du père d'Edgar, qui lui-même était éditeur. Il était en effet très engagé contre les nazis. C'était quelqu'un qui était assez à gauche. Et qui a tout de suite eu conscience du véritable danger d'Hitler. Il a écrit un autre ouvrage qui s'appelle Erfolg, qui veut dire succès, qui n'a jamais été traduit en France, mais qui a été traduit ailleurs dans le monde. Leon Feuchtwanger était l'écrivain allemand le plus traduit au monde de son époque. C'était une célébrité. Il est toujours très connu en Allemagne. Cet autre ouvrage, Erfolg, qui est paru à la fin des années 30, était une satire d'Hitler. Il le ridiculisait, il se moquait de lui et il le dénonçait. À la même époque, le parti nazi, qui était un petit, quasi groupuscule, a commencé à prendre un essor, l'essor que l'on sait.
C'est-à-dire à la fin des années 20.
À la fin des années 20. Leon Feuchtwanger, avec cet ouvrage, s'est opposé très virulemment à Hitler et a été identifié par les nazis, par Hitler, comme... l'ennemi public numéro un, ce que Goebbels a écrit dans des journaux de l'époque, et ils ont promis qu'ils lui régleraient son compte le jour où ils arriveraient au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir 2 ans plus tard, enfin en 1933, et heureusement pour Lyon, il était à l'étranger, il n'est pas rentré en Allemagne, son appartement a été mis à sac, et il a été déchu de sa nationalité assez rapidement par le régime nazi.
Le père d'Edgar, donc le frère de Leon Feuchtwanger, lui était un homme plus réservé, on va dire, qui n'a pas émigré tout de suite, qui est resté. Donc c'est comme ça qu'il va se retrouver le voisin d'Hitler. Et il essaie de maintenir une vie normale malgré le régime nazi. Et votre film montre très bien l'irruption de la violence dans ce quotidien qui n'est déjà plus un quotidien normal. Je pense notamment à l'épisode de Ziegel, cet avocat qui était un ami de la famille.
Oui, en fait, au sein de la famille d'Edgar, il va y avoir plusieurs attitudes face à l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Certains ne reviennent pas parce que Lyon ne décide de ne pas revenir, c'est dangereux pour lui. Et puis d'autres membres de la famille vont partir dans les années qui suivent. Le père d'Edgar, lui, pense que, d'abord, il suppose que le ministère de Hitler ne va pas durer. Il pense que ça va durer quelques mois, comme la plupart des ministres des gouvernements de l'époque, sous Weimar. Il ne juge pas nécessaire de s'en aller. Et au fur et à mesure que les taux se resserrent et que sa vie devient de plus en plus difficile, il continue de rester.
Même quand il est interdit de travailler.
Oui, même quand il est interdit de travailler, il se compare avec la condition des Juifs à d'autres époques et il considère que ça n'est pas invivable et que ce serait pire peut-être à l'étranger, qu'il ne sait pas de quoi il vivrait à l'étranger. Émigrer avec une famille, c'est compliqué et donc il attend en espérant que ça s'arrange. On sait que ça ne s'est pas arrangé.
On sait que ça ne s'est pas arrangé. J'aimerais donc que vous nous racontiez ce qui arrive donc à cet avocat. Dans le film, en plus, c'est très fort, puisque Edgar rencontre à cette occasion une amie d'enfance, qui est donc la fille de Ziegel.
Oui. En effet, dès 1933, dès le 10 mars 1933, un ami du père d'Edgar, le père de Beat Ziegel, qui est son ami d'enfance, qui est toujours vivante et qu'on voit dans le film, où ils se retrouvent, ils étaient voisins, ils peuvent partager beaucoup de souvenirs. Dès le 10 mars 1933, donc, il va être arrêté par la police allemande qui vient d'être mise sous le contrôle de Himmler à Munich. Il va être roué de coups et traîné dans la rue. Et il va être photographié par un photographe de presse qui va tâcher de vendre ses photos aux journaux allemands qui ne la publieront pas. Mais la photo va faire le tour du monde. Et curieusement, ce qui pourrait sonner comme un avertissement ne change pas le choix de la famille d'Edgar. C'est-à-dire que le père d'Edgar décide néanmoins de rester à Munich. Et le Michael Siegel, qui donc a été molesté ainsi publiquement, ne s'en va pas non plus. Il reste aussi en Allemagne. Et donc, alors aujourd'hui, ça paraît incroyable parce que évidemment, on sait ce qui s'est passé. Mais à l'époque, c'est considéré peut-être comme un excès de...
Oui, un excès épisodique, enfin, qui serait une sorte d'exception.
Oui.
Edgar Feuchtwanger est devenu historien donc par la suite, et on sent chez lui une volonté très forte de transmettre cette histoire. C'est très flagrant dans les scènes où on le voit, vous en parliez, Bertil Scali, dans son ancien appartement qui a été transformé en bureau. Comment ont réagi ses interlocuteurs quand il introduit comme ça soudainement dans leur présence ces fragments d'histoire?
C'est-à-dire qu'ils ont été un peu pris par surprise lorsque nous sommes arrivés dans ses bureaux, qui est l'ancien appartement d'Edgar, qui aujourd'hui est un cabinet d'avocat. Et il est allé dans ce qui était autrefois sa chambre, et qui est aujourd'hui donc un bureau. Il y avait deux jeunes femmes qui étaient là, qui travaillaient sur des dossiers. Et lorsqu'il leur a dit, voilà, saviez-vous qu'en face habitait Adolf Hitler? Elles ont bondi comme si on leur avait dit « Est-ce que vous saviez qu'en face, le diable vit ?» Enfin, elles ont vraiment été surprises et spontanément très émues, et je crois qu'elles sont restées un peu sans voix. Elles ne savaient pas trop s'il fallait en rire, si c'était une farce. Puis Edgar était là, et lui, ému, évidemment. Et comme souvent, il a pris le parti d'en rire, il fait une boutade.
Oui, parce qu'il est extrêmement bienveillant. Il n'est pas dans la revendication, ni dans la provocation.
Non, pas du tout. Il est... tout son parcours d'enfant, qui est une sorte d'enfance volée, qui se déroule dans un climat difficile, dans lequel il voit ses parents qui ne sortent plus de la maison, son père qui va finalement être arrêté, qui va aller en camp de concentration, Dachau, qui n'est pas encore le camp d'extermination, mais qui en ressort au bout de 6 semaines, totalement amaigri, qui va donc vivre toute une série d'épisodes atroces. Curieusement, avec, il raconte toujours cela avec beaucoup de, je ne dirais pas de nostalgie, mais avec un certain plaisir, parce que se mêler à cette vie angoissante, également beaucoup de moments jolis et beaucoup de plaisir. Ses parents essayaient, je crois, de conserver un plaisir de vie, de le protéger. Il était tout à fait averti de ce qui se passait à l'extérieur. Néanmoins, il continuait à aller sur les lacs, à partir en vacances, à partir en week-end, à avoir des goûters, à avoir des vrais moments de plaisir. Et ils ont cultivé ça, ils cultivent toujours ça lorsqu'ils parlent de son enfance. Ils racontent les bons moments. Et c'est ce mélange qui est curieux et qui est très émouvant, qu'on ressent, je crois, dans...
Oui, absolument, ouais.
Quand on le suit.
Le film relate également la prise de conscience de ce jeune garçon au fur et à mesure de l'évolution du régime nazi. Il raconte que dès 1933, il a donc environ 9 ans à l'époque, sa maîtresse lui fait dessiner des croix gammées. Il montre d'ailleurs ses cahiers d'écolier, dont on a des reproductions d'ailleurs dans le livre. Il avoue qu'il était... presque fasciné par la personnalité charismatique de cette femme, et que ce n'est que petit à petit qu'il va prendre conscience véritablement de ce qui est en train de se passer, alors que lui-même est juif.
Oui, il sait dès le début qu'il naît dans une famille juive. Son père a été élevé de façon assez orthodoxe. Néanmoins, il reçoit lui d'abord une éducation laïque, dans laquelle la religion n'a pas tellement d'importance, mais évidemment avec l'avènement du nazisme, il est défini comme juif par tous, par sa maîtresse, et néanmoins, il continue à jouer avec ses camarades de classe et à avoir à peu près les mêmes envies qu'eux. Eux rejoignent les jeunesses hitlériennes, un petit peu comme aujourd'hui. Un enfant est content d'aller au scout. Il lui-même trouve que, à la fois, ses uniformes sont amusants. Il est attiré par ça. Il est fasciné par la démonstration de pouvoir d'Hitler, du régime. Et en même temps, ses parents lui ont expliqué. Il sait ce que ça représente. Donc, en même temps, même s'il voulait simuler, il ne pourrait pas. Mais donc. Il y a cette espèce de double conscient envie qui s'oppose à sa conscience, qui s'éveille.
Ce qui a servi d'accroche à votre film, c'est cette proximité qu'a vécu Edgar Feuchtwanger avec le haut commandement nazi. Hitler habite juste en face, il va le croiser à plusieurs reprises. Göring, Rudolf Hess, Röhm et même Eva Braun habitent le quartier. C'est-à-dire que les personnes qui représentent ce pouvoir totalitaire et destructeur deviennent des personnes presque normales.
Oui, ce sont un peu comme les people, les personnalités de l'époque. Ce sont des célébrités. C'est toute la cour hitlérienne qui vit à Munich et qu'il croise, donc il les reconnaît. Ce sont les mêmes qui sont dans les journaux. C'est un peu banal pour lui parce que ce sont les gens du quartier, donc il les croise régulièrement, et en même temps ce sont les hautes figures du régime. Il les observe, il joue avec ses camarades à comparer qui a vu Hitler dans sa chaise longue, qui a vu Röhm passer au bras de sa mère, qui a vu la superbe Mercedes coupée argent de Hoffmann, le photographe d'Hitler. Ils s'amusent, ils ont un regard d'enfant naïf.
Il faut dire que, donc après l'internement donc, du père d'Edgar en 1939, je crois, à Dachau, à son retour d'internement, le père va donc décider de mettre sa famille à l'abri, d'émigrer en Angleterre. Peut-être que c'est après, et donc après-guerre, que même là, à ce moment où il est un adolescent ou un jeune homme, qu'il va vraiment... avoir un autre regard sur toute cette enfance qu'il a vécue et cette proximité justement extrêmement étonnante, puisque Hitler symbolise vraiment l'incarnation du mal, de l'avoir côtoyé ainsi, côtoyé c'est un bien grand mot, mais enfin de l'avoir croisé ainsi, c'est peut-être là que ça a pris un sens particulier, a posteriori.
Je crois que ça a été progressif, c'est-à-dire que le voisinage avec Adolf Hitler dure 10 ans, ça commence... en 1929, Edgar a 5 ans, et puis quand il quitte l'Allemagne, il va avoir 15 ans. Évidemment, il n'a pas la même compréhension des choses à 5 ans qu'à 14 ans. À 14 ans, il est tout à fait au fait de la situation politique de son pays et internationale. Ses parents lui en parlent beaucoup. Et il a perdu évidemment la naïveté de ses premiers souvenirs qui datent de 1929. Et puis plus il va avancer dans la vie, et plus il les regardera différemment, et avec le recul, et après la guerre, et après tout ce qu'on... Et puis il devient historien, donc il va avoir tout un sentiment d'analyse, toute une capacité d'analyse là-dessus. Dans le livre que nous avons écrit ensemble... Il s'est vraiment mis dans la peau de l'enfant qu'il avait été. Il a essayé de faire abstraction de sa conscience d'historien d'aujourd'hui pour essayer de retrouver les émotions de l'époque et pour les partager, pour essayer de faire comprendre ce qu'il avait vécu et comment il l'avait vécu. Et c'est un petit peu en faisant ce documentaire, en le suivant à Munich, c'était en fait un moment où nous étions partis sur les traces de son enfance pour écrire ce livre, nous avons essayé de donner un petit peu de ça aussi. Et de le suivre sur les pas de sa propre vie.
Absolument, il y a notamment des plans qui sont assez forts, on le voit donc aujourd'hui à Munich, dans des lieux très précis où il présente en fait à la caméra des photos sur l'endroit exact en fait où les images, des photos qui datent donc de 1933-1939. C'est un dispositif finalement très simple mais qui est extrêmement évocateur.
Oui, François Bord a très bien filmé, je crois, Edgar tout au long de cette promenade un petit peu à Munich. Edgar avait apporté avec lui des photos, non pas prises par lui, mais des photos d'histoire, oui. Mais qui représentaient les lieux à l'époque nazie, lorsqu'il y avait des défilés et qui étaient à l'image de ce qu'il avait vu. Et c'est vrai que lorsque François Bord, qui est également caméraman et co-réalisateur, a filmé ces plans, c'est très fort, c'est très, et en les revoyant en salle de montage, on était très émus même.
Oui, oui, ouais. Il y a vraiment quelque chose de, comme si le temps s'abolissait, ouais. À travers la personne d'Edgar, enfin, qu'il était vraiment une sorte de trait d'union entre ces deux moments.
Oui, 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 comme deux mondes parallèles, superposés, qui... Absolument. C'est les mêmes lieux, les lieux n'ont pas changé.
Non.
Les gens ne sont plus habitués de la même façon, ne sont plus les mêmes, évidemment. Ils n'étaient pas nés.
En voyant ce film, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au livre de Sebald, comme les immigrants. Est-ce que ça a été une inspiration pour vous? Peut-être aussi du fait que les héros de Sebald, souvent, sont émigrés en Angleterre?
Non, non, non. Nous avons essayé de vraiment nous... concentré seulement sur ce qu'il avait ressenti et vécu à l'époque lui-même. Je crois que c'est une écriture intime, très personnelle, proche du journal qu'il aurait pu tenir à l'époque. Et pour ce qui est des migrations de l'époque, il faut rappeler que, parce que tout le monde ne le sait pas, que les nazis avaient plutôt tendance à essayer de faire partir les juifs d'Allemagne. Et la difficulté pour ceux qui décidaient de partir, il fallait aussi se faire à cette idée, était d'obtenir des visas pour les autres pays avoisinants ou plus éloignés. Et ces visas n'étaient pas donnés. Les juifs d'Allemagne étaient coincés en Allemagne, ils ne pouvaient pas sortir sans visa octroyé par d'autres pays. Et les pays ne donnaient pas de visa aux familles.
Et puis il y a la question de la survie financière, matérielle ensuite.
Oui, quand on part, il fallait laisser les biens lorsqu'on partait. Il y avait une problématique financière également. Mais on se retrouvait en situation de sans-papiers, en quelque sorte.
Martin Scali, j'imagine que le tournage de ce film, l'écriture du livre aussi, ont été des moments très importants pour Edgar Feuchtwanger. Si on reste juste sur le film, il l'a vu, j'imagine. Qu'est-ce qu'il en a dit ?
Alors, il ne l'a pas encore vu. Donc, il doit le voir ce soir. Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question.
Mais sur le tournage, vous avez certainement discuté avec lui, et même après cette expérience assez
particulière. Oui, alors sur le tournage, c'était très. La présence d'une caméra peut vraiment concentrer la personne qui est filmée et augmenter l'émotion et figer l'instant. Et c'est vrai que je crois qu'il avait le sentiment que vraiment. Que ce qu'il faisait allait rester, il était filmé, et que ça l'a propulsé, on avait l'impression qu'il était propulsé dans le passé. Il avait l'air d'être totalement ailleurs.
C'est ce qui se
ailleurs.
Ressent à l'image, en tout cas, en tant que spectateur.
Oui, il y retournait. Il était, alors que c'est une personne très pudique et qui cache souvent ses émotions derrière son humour. La présence de la caméra tout de suite donnait une gravité à son attitude. Il changeait vraiment, il était totalement absorbé.
Investi. Je vous remercie d'être venu, Bertil Scali. Je rappelle que Hitler, mon voisin, qui a reçu le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, sera diffusé le 24 janvier à 20h45 sur Panet+. Je rappelle aussi la sortie de votre livre avec Edgar Feuchtwanger aux éditions Michel Lafon. C'était Mémoire vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoire-vive au pluriel.net.